Bonjour et bienvenue à Des Tours Estivales, Fulgence Blanc au micro, avec la complicité de Maurice Bolduc à la console. Notre chroniqueuse de nutrition, Louise Thibault, avec nous aujourd'hui pour une première fois en studio. Elle va nous parler de la porno alimentaire. Ne me demandez pas c'est quoi, c'est elle qui a la solution, qui a la réponse. Et puis en deuxième partie d'émission, on va recevoir Michel Faubert qui va nous parler du Festival Trad de Montréal, la 29e édition. Restez à l'écoute.
Ma tombe avec mes dents. Moi, ce que j'aime, c'est l'excédent. Même si c'est pas excellent, tant que ça rentre, c'est mieux dedans. Un mal improbable entre l'humain et l'animal. Je maltraite mon corps et il me le rend mal. Malade, maladroit, mais malin quand même. Pas de bien mal acquis, je voudrais juste ton même. La tyrannie, c'est le régime, la gym. Le corps parfait en est le bijou, la gemme. La sanction tombe publiquement, la gêne. Vivre ensemble, oui, mais bien dans son jean. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Volonté dans le formol, je résiste à tout sauf à la tentation. Tout ce qui peut faire mal finalement crée de l'excitation. Une incitation à l'erreur, au faux pas. Une hésitation qui ne pardonnera pas. Se sentir vivant sans avoir à combler le vide. Cultiver son jardin, pas de terre aride. Combattre cette peur infantile de mourir. Faire les bons choix en conscience et au clair. Être bien dans sa chair, prendre soin de nos chairs. Sans laisser la manger à chair. Être humain encore, se nourrir sainement l'esprit et le corps. Se nourrir sainement l'esprit et le corps. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie, mon angoisse, mon temps. Je bouffe ravi de ma poisse d'enfant. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer. Je bouffe ma vie. Je bouffe ravi. Je bouffe avant de me faire bouffer. Je me coule avant de faire bouffer.
Je bouffe. Alors, la chroniqueuse de nutrition est avec nous là, en studio là, pour parler de porno alimentaire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour Louise Thibault.
Bonjour Fulgence.
Oui, comment vas-tu?
Ça va très très bien.
Tout un c'est... plaisir et l'honneur de te recevoir ici en studio.
Oui, c'est un grand jour.
Oui, en live et en direct comme on dit. Voilà, on va se... voilà, tu vas nous parler un peu de ce qui est derrière cette histoire de... Porno alimenté, c'est quoi?
Oui, alors j'ai trouvé le titre dans un de mes livres.
Oui.
Mais on en parle aussi dans la littérature scientifique.
Ah.
Alors, commencer par vous parler de la cuisine virile. Vous connaissez la cuisine virile?
Non.
Ah, alors
moi,
c'est
je
bien,
fais la
c'est
petite
bien.
Cuisine. Je ne sais pas qu'il y avait une cuisine virile.
Ah oui. Alors, quand on dit cuisine virile, je ne vous parle pas de manger comme un homme et je ne vous parle pas non plus de l'homo québécois devant son barbecue.
Ah, bah, d'accord. Ah.
C'est plus subtil. C'est un phénomène assez nouveau.
Oui.
Alors, pensez aux pages couvertures d'un livre de recettes assez récent
ou
d'un magazine de cuisine. Qu'est-ce qu'on voit en général? Sur un livre de cuisine.
On voit toutes sortes de recettes, de plats, soit de la salade, soit des légumes.
Ça,
soit voilà.
Alors, on voit aussi souvent un gars avec une belle gueule. Alors,
j'ai pas fait attention.
Oui, il y en a beaucoup des livres de recettes avec des mecs craquants, avec un sourire craquant. Sinon, on a droit à sa moue la plus irrésistible. Alors, le mec en question, il a souvent un t-shirt serré pour mettre son torse en valeur.
En valeur, oui.
On cache ce qui est moins sexy avec une chemise entrouverte juste là où il faut. Le gars a une allure décontractée et à l'arrière-plan, eh bien, on voit les couleurs du livre, du magazine, de l'émission en question.
Ah, oui.
Et c'est souvent dans la cuisine que ça se passe. Donc, lorsqu'il y a présence féminine, elle est jolie et elle apporte son plus joli, son plus beau sourire. Et les magazines et les livres de recettes, eh bien, c'est illustré comme ça, il y en a pour tous les goûts. Alors, si vous êtes nostalgique, il y a eu une très grande vague, très forte vague, devrais-je dire, de cuisine, de recettes de maman et grand-maman chef de ce monde. Il y a aussi les gens pressés qui vont trouver quelque chose pour cuisiner, qui va convenir à leur horaire chargé. Oui. Et même les adeptes du slow food ont des livres de cuisine et des magazines pour eux.
Oui, c'est le contraire du fast-food, quoi.
Ah ben oui, c'est ça, mais il y a aussi des livres de fast-food, mais il y a des livres de slow-food. Il s'agit d'en parler à votre
livre. Il y a des gens
livraire.
Qui prennent la peine d'écrire des livres sur le fast-food.
Ah oui, mais d'autres sur le slow-food.
Ah oui, moi, c'est la cuisine de tous les jours.
C'est ça.
Je suis à la maison.
Ah voilà, ben là, c'est ça,
je
souvent.
Il fait des livres sur le fast-food McDo, où je passe là-bas une fois tous les deux ans.
Ah oui, c'est bien ça. Ah oui, mais vous y allez quand même un peu trop souvent.
Tous les deux ans.
Oui. On s'en reparlera après l'émission.
Parce qu'il y a un nom loin de chez moi.
Ah, ça c'est le problème. Hein. Ils sont partout.
Voilà.
Alors, j'aimerais continuer de vous parler de l'opération séduction des livres et des magazines de cuisine qui s'accompagnent souvent d'images alléchantes.
Oui.
Des plats. Et parfois, vous voyez des photos du chef ou de la chef dans des positions alimentaires variées. Donc, saviez-vous que les livres de cuisine...
Okay. Oh ouais, vas-y.
C'est une position alimentaire. Dans les livres de cuisine, eh bien, on a environ le tiers des ventes de librairies sous forme de livres de cuisine. Eh oui, on en vend beaucoup.
Le tiers?
Oui, mais faute de temps, on cuisine de moins en moins. Alors ça, c'est prouvé statistiquement que les gens achètent beaucoup plus de livres de cuisine.
De repas et... déjà prêts dans les épiceries, ils arrivent, ils réchauffent et puis c'est
paradoxalement,
fini,
on cuisine moins. Mais ça, on s'en fout, parce qu'il y a la télé, il y a le web, et quand on ne fait pas la cuisine, on la regarde. En fait, on regarde plus souvent la cuisine qu'on ne la fait. Et quand on regarde la cuisine, c'est à peu près le même scénario du livre de recettes, mais en live. Alors moi, j'appelle ça des peep-shows télévisés, qui sont habituellement télévisés aux grandes heures d'écoute et qui mettent en vedette un beau gars et ou une belle fille qui ont un plaisir fou à cuisiner sous vos yeux. Donc, on les voit s'amuser comme des petits fous avec un invité qui est généralement trié dans le milieu artistique.
Ah oui, la plupart du temps, c'est comme ça.
Oui.
Voilà,
alors, ces artistes qu'on admire au petit écran, qu'on voit sur les planches, eh bien, on adore les voir manier malhabilement le fouet et la cuillère et en mettre partout.
Ils ne savent même pas comment couper des oignons.
Ben non,
voilà,
c'est
la plupart du temps, c'est comme ça.
Non, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas dans notre cuisine. Alors, ça nous permet, dans le confort de notre foyer, de fantasmer devant leur prouesse.
Oui, c'est vrai.
Ah oui. Et la recette, elle est généralement simple, enfin. On nous dit qu'elle est simple. Alors, soit qu'elle est écrite sur l'écran, soit que vous pouvez aller la chercher sur le web ou le site internet de l'émission. Mais en attendant d'avoir le temps de retrouver la recette, d'acheter les ingrédients pour faire la fameuse recette et de trouver le temps pour la cuisiner, eh bien, on va au resto. On commande des mets préparé, comme vous en avez parlé, et on achète du prêt à manger. Et dans les marchés d'alimentation, ils ne cessent d'agrandir la section pour le prêt à manger, les aliments préparés.
Ah ouais, c'est ce que j'ai remarqué dans les épiceries,
il y en a de plus en plus. Alors, pourquoi s'en passer?
Ah oui, mais ça rend paresseux aussi. Hein.
Ça rend paresseux aussi.
Voilà, moi, j'ai appris quelque chose de cette pandémie aussi, hein. J'arrête de courir. Au fait, je prends le temps pour moi, pour essayer de me mettre un peu à la cuisine, pour essayer de me faire plaisir.
Bien.
Voilà.
Est-ce que vous avez appris à faire du pain?
Ah non, là, pas encore.
Pas encore, c'est ça.
Non, je ne vais pas prendre la
pandémie. Mais la pandémie n'est pas terminée, alors vous aurez le temps.
Je vais prendre la place des pâtissiers quand même.
Ah ben non, il faut leur laisser leur job.
Voilà. J'aime bien ce que mon pâtissier fait.
Et moi aussi.
Voilà.
Alors, j'aimerais aussi vous parler encore des livres de recettes, des magazines, sur le web, la télé. J'aimerais parler du design alimentaire. Parce que le design alimentaire, il est roi. Et les photos qu'on voit dans les photos, dans les magazines, dans les livres de cuisine, ce sont en général des photos qui ont été retouchées.
Photoshop.
Eh oui.
Oh.
Alors, comment est-ce que nous, simples cuisiniers, on peut arriver à reproduire dans le confort de notre cuisine des plats qui vont ressembler aux images professionnelles ultra léchées des livres et des magazines de cuisine. Ça nous donne des complexes, souvent. Comment est-ce qu'on peut y arriver?
Non, moi, je ne me suis jamais comparé à ces photos-là.
Eh bien, moi, oui. Oui,
j'ai essayé. Bon, Louise, pour ceux qui ne le savent pas, elle est docteur en nutrition. Là. Ça, c'est autre chose. Mais moi, là, moi, je vais faire mon petit plat dans mon petit coin, manger, et puis c'est tout. Quoi. C'est pas comment.
Et j'ai enseigné la préparation alimentaire pendant 30 ans.
Voilà, donc alors, je comprends quand tu dis toi, ça. Oui, là, je comprends Louise.
Alors, ça me préoccupe beaucoup, le design alimentaire.
Ah, oui.
Et le design alimentaire, sachez aussi que c'est l'endroit où nous mangeons. Oui, on va de plus en plus au restaurant.
Oui.
Alors, j'ai décidé de vous parler d'une étude scientifique qui a servi un repas, le même repas, soit dans un restaurant ou soit dans une cafétéria. Le même repas.
Oui.
Alors, ce que les scientifiques ont trouvé, c'est que le repas a été jugé supérieur, tant pour son goût, sa texture, que pour sa présentation. Pourtant, tout était la même chose.
Oui.
Au restaurant qu'à la cafétéria.
Oui, parce que c'est pas le même design.
Et c'est pas le même design, et c'est pas la même ambiance, c'est pas le même esprit.
C'est vrai, c'est vrai. Ouais.
Alors, il y a une autre étude fascinante. Ne regardez pas l'heure, s'il vous plaît.
Oui.
Qui a testé l'effet que peut produire l'ambiance dans un restaurant. Alors, dans ce cas-ci, on a invité des sujets à manger dans deux restaurants. Un restaurant italien, avec un décor typiquement italien,
oui.
Le menu écrit en italien, le drapeau italien, tout le tralala. Et le menu, c'était des mets italiens. Alors, l'autre restaurant où on a testé le même repas italien, ben, il avait un décor assez neutre. Il n'était pas très loin du restaurant italien.
Oui.
Mais pour l'ambiance à l'italienne, il n'y en avait pas. Ce qu'on a trouvé, c'est que la cuisine du restaurant décoré à l'italienne a été jugée plus typiquement italienne. Pourtant, c'était les mêmes mets.
Les mêmes mets.
Et les clients, ils en ont mangé plus du repas, et notamment, ils ont mangé plus de desserts.
Dans le restaurant avec décoration italienne.
C'est ça.
Plus que dans l'autre avec
l'autre, plus
une décoration
et
plus
tout,
neutre.
Ouais. Et exactement
vrai,
le même
menu. C'est ça a un impact sur tout ça.
C'est un impact sur tout.
Ça vient du cerveau.
Évidemment, parce qu'on est conditionné par ce qu'on voit. Alors, si on nous met dans une ambiance italienne,
oui.
Avec la musique, ou si le chercheur...
Le
serveur qui va nous parler un peu en italien,
Franco,
comme ça.
Ouais.
Oui, on n'y comprend rien, mais on aime ça.
Oui.
Alors, on va être porté à juger le repas plus italien et puis à l'aimer plus, à savourer plus.
Wow.
Alors que c'est exactement le même
mais
repas.
Mais c'est des choses auxquelles on ne fait pas du tout attention quand on va pour manger quelque part. Et moi, j'arrive, je passe ma commande, je me fais servir et puis le reste, c'est de la côté. Quoi,
ah voilà, maintenant, vous le savez.
Oui, tu me l'apprends. Tu nous as appris tellement de choses, Louise. Voilà, allez, je te laisse continuer.
Alors, moi, j'aimerais que vous reteniez tous et toutes que mes chroniques de nutrition estivale, à savoir sensorielle, elles étaient là pour vous aider à mieux apprécier vos aliments, vos boissons. En fait, on a énormément de plaisir sensoriel à manger et à boire, et ça, il faut y porter attention. Et aussi, j'aimerais que vous vous souveniez, quand je vous ai dit qu'on avait les yeux plus grands que la panse, je veux que vous vous souveniez...
Ça, j'aime ça, les yeux plus grands que la panse.
Ouais, c'est ça. Je veux vous souveniez de la couleur des goûts, la couleur des odeurs. Je veux aussi que vous songiez à la mémoire et à vos sens.
C'est la dernière de l'émission, hein.
Alors,
parce que l'émission finit en fin de semaine. Je te laisse aller, hein.
Alors, j'aimerais que... Oui, absolument. Je fais un petit rappel de tout ce que j'ai dit, comme dans mes cours. C'est important.
Mm-hmm.
Alors, nos sens sont intimement liés à la mémoire.
Mmh.
Alors, je vous ai déjà dit que la musique pouvait nous permettre de remémorer des événements, des personnes qu'on a rencontrées il y a longtemps. Mais l'odeur des aliments et aussi leur goût va vous aider à vous remémorer peut-être votre premier rendez-vous.
Tu sais, partout où je passe maintenant, quand les gens font de la barbecue, que balcon ou bien devant les restos, là, juste à côté, là, quand on sort de la radio, tout de suite, je pense à tes chroniques, à l'odeur.
C'est bien.
Sans voir le plat.
J'espère que ça sent bon.
Oui, ça sent toujours bon. Ça sent toujours bon, là, ça c'est clair. Hier, il y avait des voisins qui faisaient de la barbecue en arrière-cour, là, dans la ruelle de l'immeuble. Je sentais l'odeur de la viande.
C'est sympa.
Voilà, c'est sympa.
Sympa.
Je suis pas allé commander, je suis pas allé les emmerder avec ça. Je m'excuse du terme, mais voilà.
Ah,
ça sent
pourriez,
bon. Ça sent bon.
Oh, non, pourriez leur dire, c'est un compliment.
Voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous dis en dernière minute?
Ah ben, dernière minute. Écoute, je sais pas trop quoi dire. Je veux vous remercier tout simplement. À vous qui m'avez écouté, qui nous avez écouté pendant l'été, une douzaine de chroniques ou presque. Et puis, je voudrais très remercier Fulgence, je voudrais remercier l'équipe.
Le merci est à toi. Non, le merci te revient. Non. Attends. Moi, tu ne me remercies pas, là.
Bon,
le merci te revient. Tu peux remercier Maurice.
Ah, merci Maurice. Pour la musique.
Moi, tu ne me remercies pas. C'est grâce à lui pour le son. Sans lui, on n'a pas de son.
De m'avoir téléphoné. Même une fois, il m'a téléphoné en milieu de semaine, alors que ce n'était même pas ma chronique.
Ah, voilà. C'est pas grave.
J'ai eu la frousse.
Ouais. Alors non, merci à toi d'avoir passé cet été avec nous comme ça. Et puis bon, voilà, c'est la dernière de la saison.
Oui.
Et puis on se reverra la semaine prochaine pour un autre voyage.
Ben oui,
voilà,
j'ai plein de choses à voir.
Tu vas avoir pour un autre voyage, mais ce serait plus des twists, ce serait quelque chose d'autre.
Oui.
Et puis voilà, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ta présence à des tours estivales. Tu nous as appris, moi tu m'as appris beaucoup de choses. Je pense que c'est pareil pour les auditeurs qui nous écoutent.
Je
pense que c'est pareil pour mon complice à la console là-bas. Ouais.
Maurice qui
a remis sa tête.
Ouais. Oui, qui a participé.
Toi, tu ne vois pas de dos, mais moi je le vois.
J'imagine.
Merci Louise Thibault.
Je t'en prie.
Docteur en nutrition et scientifique, prof à l'Université McGill durant une période de 30 ans.
Oh, oui.
Auteur de livres sur la nutrition et le cerveau aux éditions de l'Homme.
Oui.
Voilà, pourquoi pas aux éditions de la Femme.
Elle est
Allez,
bonne.
Merci à toi. Okay. On va en musique. Oui, ça c'est le grand Lipery que vous venez d'écouter comme ça, c'est Upsetter. Lipery Upsetter, c'est l'emmerdeur, hein. Comment on peut l'appeler? C'est la légende. C'est lui qui, avec son studio work, Black Ark, c'est pas Art, Ark, A-R-K. C'est lui qui a poussé Bob Marley dans un studio d'enregistrement. C'est comme ça qu'il a pu faire son premier enregistrement. Paul McCartney passait dans ce studio là-bas en Jamaïque, à Kingston, bien sûr. Passait pas mal de la disque, qui sont tous les premiers grands du reggae, sont passés par là. À l'époque, c'était pas du reggae. C'est l'un de ses premiers tubes, d'ailleurs, qu'on vient d'écouter, là. Play on my Mr. Music. Et puis, il nous a sorti quelque chose en 2021, son autobiographie, Rainford, bien sûr. Il y a déjà eu un documentaire sur lui. Malheureusement, il nous a quitté hier à l'âge de 85 ans. Voilà. Il a quitté dans les années 99 pour aller en Suisse, s'asseoir là-bas, habiter là-bas avec sa femme, épouser une Suissesse, deux enfants. Ils sont grands maintenant, bien sûr. Paix à son âme. Je vais revenir sur lui, un bref spécial sur lui en fin de semaine, en fin de cette émission, des Tous les Vals, le vendredi. Voilà. Et on termine. On va en musique, Maurice ? On termine cette partie de l'émission avec Scat and Club. Christine Killer. Restez à l'écoute, voilà, on vous revient après la petite pause publicitaire, voilà, et puis ça va continuer avec notre invité, Michel Faubert, qui va nous parler du Festival Trad de Montréal.
Vous écoutez Détour Estival avec Fulgence Blas.
Prescrit un médicament qui rallonge la vie. Avez-vous entendu parler d'un mystérieux psychologue qui sème la zizanie dans l'entourage de ses patients? Avez-vous entendu parler de femmes disparues après avoir dansé avec un inconnu? Avez-vous entendu parler de personnes qui auraient pris feu spontanément et qui se seraient consumées? Avez-vous entendu parler d'une chanson si triste qu'elle pousse au suicide et qui a été interdite? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? Chanté pour un animal, tel un bœuf ou un chien? Avez-vous entendu parler d'une mouche ensorcelée qu'on dissimule dans le manche d'un outil pour en améliorer le rendement? Avez-vous entendu parler d'un chat qui veut tuer son maître, cette fois par nuit, et s'y ravise? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique? Dont les murs ne peuvent être peints, nettoyés ou tapissés? Avez-vous entendu parler d'un laboureur pétrifié ou enseveli parce qu'il ne pouvait plus s'arrêter? Avez-vous entendu parler d'un moine autostoppeur qu'il faudrait mieux ne jamais faire monter à bord de son véhicule? Avez-vous entendu parler du diable d'Amérique?
Vous avez reconnu sa voix. Il est avec nous au bout du fil pour nous parler de la 29e édition du Festival Trad de Montréal. Michel.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, vous. Avec la grosse voix de Diable d'Amérique, c'est vous que ça aurait pris, pas moi pour la pièce.
Alors, il est originaire de la Montérégie, Michel, auteur, chanteur, conteur, metteur en scène, associé à la mise en valeur artistique des patrimoines méconnus, tant québécois qu'acadien. Bravo! Il est aussi connu pour ses collectes et ses adaptations contemporaines de complaintes légendaires et de contes merveilleux. Il voyage tout aussi bien dans l'univers du folklore que dans celui de l'underground montréalais qu'il a beaucoup fréquenté. Ça fait longtemps qu'il... Il est dans ce milieu aussi, hein. Membre fondateur des Charbonniers de l'Enfer, il a aussi été des aventures de 12 hommes rapaillés qui chantent Gaston Miron, bien sûr, j'adore ça. Ouais. Et Corps Amour et Anarchie, PPS Danse, autour du Péré, répertoire de Léo Ferré. 8 albums, 2 livres à son actif. Corrige-moi, s'il te plaît. Michel, corrigez-moi si je me trompe. Hein.
Rajoutez-en pas parce que je ne saurais plus quoi dire.
On va parler du festival. Une anthologie intitulée Contes aux éditions de Planète Rebelle. Michel Faubert, merci beaucoup d'avoir le temps de venir nous parler de cette 29e édition en tant que porte-parole de cet événement.
Oui, merci de m'avoir invité.
Avec plaisir. Merci d'avoir eu le temps de prendre le temps de nous dire oui, d'être là aussi. Alors, comment on se sent?
On se sent fébrile un peu parce que ça va être une grosse fin de semaine. Et bien, bon, ça va être dans la suite d'un festival qui existe depuis 29 ans.
Oui.
Ben, c'est quand même une nouvelle édition avec une nouvelle orientation. Il y a un nouveau directeur artistique qui s'appelle Marc Maziad.
Oui.
Et puis, ben, bien sûr, ça teinte le festival dans ses nouvelles couleurs.
Oui.
Alors, il y a, c'est sûr qu'il y a de la fébrilité dans l'air. Oui.
Oui. Pour ceux qui ne connaissent pas ce festival, même si c'est la 29e édition, qu'est-ce que c'est que le festival Trad de Montréal?
Bon, avant, ça s'appelait La Grande Rencontre. Et puis, c'est quelque chose qui était né autour de la danse traditionnelle.
Oui.
Et puis, auquel s'est greffé des spectacles sur scène, etc. Alors que là, on s'en va peut-être un petit peu plus vers un festival urbain, plus contemporain, plus moderne, mais ça n'empêchera pas qu'il va y avoir de la musique de danse, qu'il va y avoir toutes sortes de couleurs. Bien sûr, la couleur québécoise traditionnelle avec les airs de danse, avec la chanson à répondre, etc.
Oui.
Ça va être là toujours. Mm-hmm. Mais il y a aussi de la couleur autochtone avec Mo Clark. On va même dans les Antilles avec le quadrille. Et puis, autour du travail de gens comme Daniel Bellegarde et puis aussi Pierre Mine. Alors, ça va être très intéressant de ce côté-là aussi.
Mais pourquoi ce virement, Michel?
Ben, peut-être parce que on est rendu, rien que le mot trad, voyez-vous, avant, il n'y avait pas le mot trad qui était conjugué à l'appellation du festival.
Oui.
Et on s'aperçoit que depuis quelques années, depuis plus d'une décennie, il arrive une petite mini-révolution dans cet univers-là. Moi, voyez-vous, dans ma génération, moi j'ai 62 ans,
oui.
Alors j'ai commencé à faire du traditionnel, on disait du traditionnel, en allant voir des vieux, en allant collecter des vieux qui, eux, avaient connu des traditions familiales. Mmh. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on est beaucoup plus avec une nouvelle génération qui s'inspire du patrimoine ancien, mais qui a envie de créer, qui a envie d'inventer, qui a envie de composer. Et ça fait complètement une nouvelle mixture, ça. Et puis, je pense que c'est important qu'un festival à Montréal puisse montrer ça.
Oui.
Parce qu'on est en milieu urbain, puis on est dans un milieu de rencontres multiples. Alors, c'est une bonne place pour faire ça.
Oui. Vous arrivez chaque année comme ça à réunir combien d'artistes au total?
Oh mon Dieu Seigneur, ça c'est une bonne question qu'il faudra poser au directeur artistique. Il y a des spectacles à tous les soirs à partir de mercredi.
C'est
il y a
ça.
Des conférences.
J'ai la liste là même d'ailleurs.
Là, oui. Je ne pourrais pas vous les nommer.
Oui. Alors ça commence le... Wow. Mercredi 1er, après demain, aujourd'hui c'est lundi.
Oui, c'est ça. Oui. Ça commence mercredi avec un grand gala, un gala d'inauguration. Il va y avoir la remise de trophées Aldor. C'est un petit peu nos Oscars ou nos Félix du domaine du trad.
Oui.
Et puis, par la suite, c'est ça. Ça va continuer jeudi, vendredi, samedi et dimanche avec des spectacles tous les soirs. Et puis, bien entendu, en fin de semaine, dans le week-end, il va y avoir des activités pendant la journée. Il va y avoir des films, il va y avoir même des conférences. Et puis, de la musique, des jams, des gens qui vont pouvoir jouer ensemble, jammer ensemble, chanter, etc.
Oui.
Et il y aura des spectacles de qualité.
Oui. C'est et puis, ce qui est important, c'est que presque tout est gratuit.
Oui, il y a des spectacles qui sont... Oui, presque tout. Ça se passe à la Maison de la culture Antic.
Oui.
Il y a des activités qui sont gratuites. Il y a des spectacles qui sont payants.
Oui.
Et il y a aussi dans le parc, l'autre côté de la rue, dans le parc Antic, il y a des activités, il y a des spectacles et ça va être gratuit.
Oui, c'est ce que je vois ici d'ailleurs. Par exemple, le gala de 20h, gala grande rencontre avec le trio Gaston Nollet, c'est un billet, c'est gratuit, mais il faut réserver d'avance.
Oui.
Pandémie oblige. Voilà.
Pandémie oblige. Et avec Gaston Nollet, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la couleur traditionnelle qui nous relie à ce que j'ai connu, moi, étant plus jeune, c'est-à-dire le joueur de petit, le bon joueur de petit accordéon qui joue de la musique de danse,
oui,
sans fluff-là, et puis dans la réalité, dans la véracité de ce qu'on est.
Oui.
Alors, voyez-vous, ça part vraiment dans les roots.
Oui, et puis le même mercredi 1er septembre à 22h, il y a un jam avec lui, avec Gaston,
oui,
Gaston Nollet, Richard Forêt et Benoît Legault. Là, c'est $5 seulement sur place, gratuit, oui, pour les membres d'Espace Trad. Alors, comment on fait, oui, pour devenir membre de l'Espace Trad?
Oh mon Dieu Seigneur, vous savez, moi je suis un porte-parole artistique, je peux pas rentrer tout à fait dans ces domaines-là,
okay, okay,
dans ces domaines aussi pointus.
Mm-hmm.
C'est là-dessus que je m'ennuie de mon camarade Marc Maziat. Qui
et j'aurais dû vous recevoir en même temps, vous voulez dire, Michel.
On peut parler artistique comme vous voulez, et puis je peux vous parler de certains coups de cœur.
Oui, oui, d'accord. On retourne, avant de retourner, on a la dernière minute de la première partie de la conversation avec vous, Michel. On va parler,
d'accord,
de la suite de la programmation avec une pause musicale. Cette fois-ci, on va écouter Cédric Dinlavoie, Tenant mon frère.
Oui.
Alors pour ceux...
vous m'avez fait doublement plaisir d'ailleurs en mettant ça, parce que ce disque qui est sorti cette année,
oui,
pour moi c'est un de mes coups de cœur, toutes catégories confondues, et on y entend la voix d'un homme que j'ai bien connu, né en 1914, décédé il y a un peu plus de 10-15 ans, Alphonse Morneau. Alors merci d'avoir mis ça, excusez-moi de vous avoir interrompu.
Ah non, c'est nous. Ça nous faisait bien donner l'histoire de la pièce. Voilà, on va, et puis bon, je vais rappeler un peu l'adresse à ceux qui ne savent pas où est située la Maison de la Culture à Anstic. C'est au 10 300 boulevard La Jeunesse.
Oui, absolument. C'est bien ça. Et puis pour toute information concernant le quoi du comment, ben vous pouvez aller voir le site du festival, Festival Trad de Montréal, et vous aurez des informations supplémentaires.
Toutes les infos sont là-bas, oui, oui.
Oui.
Toutes les infos sont là-bas. Festival Trad de Montréal en un seul mot .ca. C'est bien ça, vous allez avoir combien de devenir membres pour pouvoir, voilà, sur place, pour gratuit, pour de temps en temps, quand les festivals reviennent comme ça. Et puis le jeudi 2 septembre, cinéma rencontre, 16, Sophie Valcourt, avec, réalisatrice, la contrebasse, Atti Rivière, Pierre Mime, et réalisateur, voilà.
Il y a beaucoup de choses que je vais découvrir en fin de semaine et j'ai bien hâte de voir. Il y a un volet au cinéma
qui
est intéressant avec la voix Piconi Mobile aussi, qui est un projet fantastique qui avait été parti par Manon Barbeau à l'époque et puis qui a beaucoup œuvré dans le monde amérindien. Alors, on voyage dans différentes traditions et aussi, ben, le cinéma, c'est un beau volet dans un festival comme celui-là.
Oh oui, oui, c'est le jeudi 2 septembre à 17h et puis à 20h, il y a Stéphanie Lépine et André Marchaud, soirée à deux concerts. Hein. Voilà. Et puis à 21h, il y a Fanfare de Montfarlot, Mona Lisa.
Oui, une fanfare très, très énergique et très originale, une fanfare qui vient de Québec, des gens que je connais bien, qui font de la musique de danse, de la musique de cadré, mais sous les formes de fanfare. Ils ont un répertoire très, très varié, c'est très coloré, alors ça va être bien.
Oh, oui, oui, oui. Mais il y a tellement de spectacles dans la même journée. En même temps, à 22h, il y a Jam avec David Sima, David Brunel et Marc Maziade, $5 sur place, oui, et oui. Gratuit pour les membres d'Espace Trad. Alors, pour savoir comment on peut devenir membre, allez-y sur le site festivaltradmontréal.ca. Allez-y, remplis le formulaire là-bas, payez vos frais de membre, et puis bon, chaque année, comme ça, vous pouvez profiter au moins de ces forfaits spéciaux là pour le festival en plein air. Alors, le groupe, il y a un groupe là, j'aimerais bien que vous me parliez de vous. Non, le samedi, le vendredi, le 3 septembre, à 16h, il y a cours de répertoire au violon avec Liette Raymond. Ah bon, il y a des cours même de violon.
Oui, Liette qui est dans la fanfare Montfarlot est une très bonne violoneuse aussi.
Oui, oui, 17h, cinéma rencontre, Fast Jam, Stéphanie Lessard-Bérubé, réalisatrice plusieurs courts-métrages. Et puis à 20h, il y a David Sima, album solo. Première, parlez-nous un peu de ça, David. David Sima.
C'est aussi un grand album qui est sorti cette année.
Ouais. Ouais. Et à 21h, il y a Famille Le Blanquet et compagnie et autres, à 22h. Mais j'aime bien votre programmation. Ça commence soit à 17h, soit à 16h, soit à 15h, jusqu'à 22h. Ça dit que ça va jusqu'à minuit, quoi, disons.
Oui.
Ouais. Génial. Génial. Comment est-ce que ça a été facile de réunir tous ces artistes?
Est-ce que c'est possible de, pardon?
Est-ce que ça a été facile de réunir tous ces artistes?
De réunir tous ces gens?
Oui.
C'est le travail d'un directeur artistique. Qui est bien d'aplomb et bien déterminé.
Oui.
Alors voyez-vous, c'est sûr que c'est pas facile. Puis dans les conditions de cette année,
oui. C'est
sûr que bon, il y a la pandémie. Il y a pas si longtemps encore, on savait pas s'il pourrait y avoir des spectacles vivants avec du public en chair et en os.
Oui.
Alors c'est beaucoup 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 de travail. Et puis je suis très content de voir que moi-même je vais pouvoir découvrir des nouveaux artistes que je connais pas et revoir des gens que j'aime bien en fin de semaine comme ça. Alors je suis ravi de ça.
Oui, 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 oui. Oui. Et puis vous-même, Michel Faubert sera le dimanche. Il faut que j'en parle, il faut qu'on en parle, Michel. Hein? Le dimanche 5 septembre à 20h, en quintette, la chapelle ardente, avant-première. Alors, parlez-nous un peu ça de vos spectacles. Quelle est la surprise que vous réservez au public qui va se déplacer là, Michel? Allô? Allô, Michel?
Oui, attendez, j'ai du mal à vous entendre, excusez-moi.
Allô, Michel?
Oui,
je parlais
à peine.
Oui, je parlais de vos spectacles du dimanche à 20h.
Oui, mon spectacle à moi?
Oui, Michel Faubert
oui,
en quintette.
Alors ça, c'est un espèce de voyage à travers un Québec méconnu, un Québec mystérieux,
oui.
Un Québec peut-être un peu sombre, mais avec des étoiles dedans. C'est le Québec des marginaux
oui.
Et des mystiques. Je vais être accompagné par un groupe de fins musiciens qui font du rock exploratoire, qui sont
oui.
Beaucoup versés dans l'improvisation aussi, en les personnes de Bernard Falaise, Pierre-Yves Martel, Alexis Martin. ainsi que Guido Del Fabro. Alors, c'est ça, c'est comme une recherche historique. Puis on écarte un peu le rideau des esprits dans ce spectacle-là.
Oui, oui. Ça se passe à 20h avec votre quintette. Oui. Et à l'avant-première, il y a la chapelle ardente qui va ouvrir, qui fait l'enlever des rideaux, comme on dit souvent. Et je pense bien que les absents, tout le monde, on espère qu'il fera beau cette fin de semaine-là aussi, pour que les gens puissent se déplacer en grand nombre et profiter de ces beaux spectacles que vous offrez pour la 29e édition du Festival Trad de Montréal. Voilà. Une dernière question avant de vous laisser partir. Il y a un groupe, la situation même actuelle là, concernant, est-ce que ce serait en hybride, ce serait projeté en même temps sur le web comme certains festivals ont déjà fait, ou bien il faut être en présentiel seulement? Allô Michel?
Oui. Excusez-moi, j'ai du mal à vous capter, je m'en excuse.
Oui, c'est pas grave. Je reprends la question. Est-ce qu'il y aura une diffusion sur web en même temps ou bien ce serait seulement en présentiel?
Ça va se passer surtout en salle.
OK. OK. Oui. OK. Parce qu'il y a pas mal de festivals qui ont gardé le système hybride pour essayer de toucher le plus de monde possible. On espère que les gens vont se déplacer. Bon, ça commence bientôt, là, après-demain, et puis jusqu'au dimanche.
Oui, si absolument. On compte bien vous y rencontrer. Merci.
Si j'ai le temps, je passerai vous voir avec votre quintette, d'ailleurs. Oui. Vous encourager. Merci beaucoup, Michel.
Merci à vous. Je vous remercie infiniment du temps que vous m'avez accordé que vous avez accordé au festival. Bon festival, tout le monde. Au revoir.
Merci, bon festival. Au revoir. Germaine, il n'y a pas de mal à ça. Et ces dames, il n'y a pas de mal à ça, mesdames. Il y aura un lancement d'ailleurs d'avoir cette soirée-là, soirée à trois concerts, bien sûr. Ça va être le samedi 4 à 19h. Ne ratez pas, allez écouter si vous aimez ce genre de musique. Faites le déplacement pour écouter et encourager ces dames. Voilà, on va passer à autre chose là rapidement. De toutes les façons, d'ici la fin de semaine, je vais revenir sur le festival Trad, je vais parler un peu, revenez vous rappeler ça d'ailleurs pour terminer l'émission de tout festival. Mais d'ici là, maintenant on va parler un peu de quelqu'un qui, j'en avais parlé de la semaine passée d'ailleurs, tout le monde s'attendait à ce qu'il parte. Il s'agit du joueur, le grand joueur de soccer, de football, Cristiano Ronaldo. La semaine passée, quand je parlais de lui, tout le monde s'attendait à ce qu'il signe au Manchester City. Ah non, c'est pas le cas, il a joué le coup. Tout le monde, c'est pas là-bas qu'il s'est retrouvé, il a signé dans la même ville, mais pour un autre club, le club rival bien sûr, Alors là, tout le monde a été pris de court, quoi. Bon, il est passé par là il y a plus d'une décennie. Il était là, tout le monde se disait, c'était clair, c'était OK avec Manchester City. Non. Ça n'a pas été le cas. C'est pas avec eux qu'il a signé. Il a signé avec Manchester United. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Voilà. Il y a eu une grande opération de séduction de la part de City. Mais tout le monde se disait, les connaisseurs se sont dit, mais est-ce qu'on le voit vraiment là-bas, Manchester City? Parce qu'il a joué à United. Ouais, il est parti du côté de l'Espagne, de l'Italie et autres. Non, tout le monde. Mais ses amis le savaient parce qu'il tweetait avec eux sur Instagram et autres. Il disait à ses anciens collègues, à quelques Français, Vera et autres, Evra. Voilà, et il dit, mec, je retourne dans notre club. Voilà. Et lui, il a gardé ça pour lui seul. Il n'a pas du tout publié sur Facebook ni sur Instagram, rien. C'est après avoir appris que son ami vient de signer qu'il a publié les échanges qu'ils ont eus sur Instagram. Et il a dit, hey mec, je retourne dans notre club d'avant. C'est bien. Il a été très discret, ce garçon, Evra. Alors, je dis, qu'est-ce qu'on veut? Bon, selon ce que mon chef d'antenne m'a laissé entendre, d'ailleurs, avant l'émission, cette histoire de Mbappé avec le Real de Madrid, Paris Saint-Germain, paraît-il que le Paris Saint-Germain et le Real de Madrid ont trouvé un compromis que Mbappé va rester à Paris, au PSG, au Paris Saint-Germain. De toute façon, je vais vous revenir là-dessus. Ça bouge tellement parce que la date fatidique, c'est le 31, c'est demain, c'est le dernier jour de Mercato, ça dit des départs, des transferts. Si tu n'as rien signé jusqu'à demain, à minuit, c'est fini. Tu ne peux plus rien signer. Voilà. On va en musique. Ça finit là, on va pas en musique là, c'est la fin de l'émission, tranquillement. Merci Maurice Bolduc, à toi. Et puis merci à notre chroniqueur de nutrition, Louise Thibault, qui est passé nous voir pour la première fois en studio pour nous parler de nutrition. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices. Merci à notre invité Michel Faubert, qui est venu parler du festival Trad de Montréal. Prenez soin de vous et on se retrouve demain à la même heure sur les ondes de Canal M.
Voilà l'été, toujours l'été.